Lettre 106 de Madame de Sévigné à Madame de Grignan. À Paris, vendredi 1er juillet 1672. Enfin, ma fille, notre chère tante a fini sa malheureuse vie. La pauvre femme nous a fait bien pleurer dans cette triste occasion, et pour moi, qui suis tendre aux larmes, j'en ai beaucoup répandu. Elle mourut hier matin à 4 heures sans que personne s'en aperçût. On la trouva morte dans son lit. La veille, elle était extraordinairement mal et, par inquiétude, elle voulut se lever. Elle était si faible qu'elle ne pouvait se tenir dans sa chaise et s'affaisser et couler jusqu'à terre. On la relevait. Mademoiselle de la Trousse se flattait et trouvait que c'était qu'elle avait besoin de nourriture. Elle avait des convulsions à la bouche. Ma cousine disait que c'était un embarras que le lait avait fait dans sa bouche et dans ses dents. Pour moi, je la trouvais très mal. À 11 heures, elle me fit signe de m'en aller. Je lui baisai la main. Elle me donna sa bénédiction et je partis. Ensuite, elle prit son lait par complaisance pour Mademoiselle de la Trousse. Mais, en vérité, elle ne put rien avaler et elle lui dit qu'elle n'en pouvait plus. On la recoucha, elle chassa tout le monde et dit qu'elle s'en allait dormir. À 3 heures, elle eut besoin de quelque chose et fit encore signe qu'on la laissât en repos. À 4 heures, on dit à Mademoiselle de la Trousse que sa mère dormait. Ma cousine dit qu'il ne fallait pas l'éveiller pour prendre son lait. À 5 heures, elle dit qu'il fallait voir si elle dormait. On approche de son lit, on la trouve morte. On crie, on ouvre les rideaux. Sa fille se jette sur cette pauvre femme, elle veut la réchauffer, ressusciter. Elle l'appelle, elle crie, elle se désespère. Enfin, on l'arrache et on la met par force dans une autre chambre. On me vient avertir. Je cours tout ému. Je trouve cette pauvre tante toute froide et couchée si à son aise que je ne crois pas que depuis 6 mois elle ait eu un moment si doux que celui de sa mort. Elle n'était quasi point changée à force de l'avoir été auparavant. Je me mis à genoux et vous pouvez penser si je pleurais abondamment en voyant ce triste spectacle. J'allai voir ensuite Mademoiselle de la Trousse dont la douleur fend les pierres. Je les amenai toutes deux ici. Le soir, Madame de la Trousse vint prendre ma cousine pour la mener chez elle et à la Trousse dans 3 jours en attendant le retour de Monsieur de la Trousse. Mademoiselle de Méry a couché ici. Nous avons été ce matin au service. Elle retourne ce soir chez elle parce qu'elle le veut. Et me voilà prête à partir. Ne m'écrivez donc plus, ma belle. Pour moi, je vous écrirai encore, car quelque diligence que je fasse, je ne puis quitter encore de quelques jours, mais je ne puis plus recevoir de vos lettres ici. Vous ne m'avez point écrit le dernier ordinaire. Vous deviez m'en avertir pour m'y préparer. Je ne vous puis dire quel chagrin cet oubli m'a donné, ni de quelle longueur m'a paru cette semaine. C'est la première fois que cela vous est arrivé. J'aime encore mieux en avoir été plus touché par n'y être pas accoutumé. J'espère de vos nouvelles dimanche. Adieu donc, ma chère enfant. On m'a promis une relation, je l'attends. Il me semble que le roi continue ses conquêtes. Vous ne m'avez pas dit un mot sur la mort de M. de Longueville, ni sur tout le soin que j'ai eu de vous instruire, ni sur toutes mes lettres. Je parle à une sourde ou à une muette. Je vois bien qu'il faut que j'aille à Grignan. Vos soins sont usés, on voit la corde. Adieu donc, jusqu'au revoir. Notre abbé vous fait 1000 amitiés. Il est adorable du bon courage qu'il a de vouloir venir en Provence.